en compagnie de la fille d'Octobre, ou en tout cas de deux de ses membres. Donc bonsoir, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire ce que vous faites dans ce groupe La Fille d'Octobre?
Alors bonsoir, moi je suis Mallory, donc je suis la chanteuse, l'interprète.
Et moi je suis Franck, je suis l'auteur des textes et je m'occupe aussi des scénographies, de l'aspect visuel, etc., etc.
Vous avez donné un concert la semaine dernière, c'était comment?
À la Boule Noire, lundi dernier, il y a juste une semaine, qui s'est très très bien passé. C'était le premier concert qu'on faisait pour le lancement de l'album. Il y avait du monde, il y avait une très très bonne ambiance. Et puis des gens de toutes sortes, de tout horizon, venus de Paris, de pas de Paris, de loin et de pas loin. Donc on a eu un très très bel accueil.
La même chose, pour moi c'est un petit peu plus difficile peut-être parce que un vrai concert avec un gros son rock, c'était pour la chanteuse un petit peu plus difficile que d'habitude, on va dire que j'ai rarement eu un son pareil dans les oreilles, j'étais sourde à la fin du concert, mais non c'était de très bonnes sensations, vraiment.
Comment est née l'idée de ce concept album? Parce qu'apparemment c'est le fruit du hasard au niveau de la rencontre entre les textes, la musique et le chant. L'origine des textes, c'est venu comment?
Disons que l'idée de départ, quand on s'est rencontrés tous les trois, c'est qu'on était tombés d'accord pour faire et des chansons, mais pas simplement des chansons qui seraient des petites bulles autonomes comme ça, c'était de faire d'aller plus loin, de raconter une histoire, de traverser des émotions, des sentiments qui pouvaient se faire écho, qui pouvaient aboutir à une sorte de grande évolution, une grande trajectoire, faire des choses qui pourraient, pour Mallory, être plus intéressante que de chanter des chansons les unes après les autres et qui permettrait sur scène aussi de faire d'établir toute une ambiance, tout un chemin qui aille un peu au-delà de ce qu'on ferait en chanson française par exemple. Et donc on a créé cette histoire d'Hurlevent, cette femme noyée qui dans l'instant où elle va mourir va traverser tout un tas d'états émotionnels, psychiques, spirituels qui vont l'amener à un point de départ, à un autre à la fin.
C'est important d'avoir fait du théâtre justement pour pouvoir s'accaparer ce personnage et pouvoir retranscrire au-delà du texte toute une émotion dans le chant.
Alors je ne sais pas si c'est important d'avoir fait du théâtre pour pouvoir le faire. En ce qui me concerne, je ne sais pas si tout ce que j'ai fait m'a servi. Je ne suis pas vraiment en mesure de le dire parce que là c'est très personnel vu les textes dont il s'agit. J'ai jamais eu à servir au théâtre des textes qui me parlaient aussi fort, aussi près. Donc c'est un peu comme si... La rencontre avec les textes de Franck, c'est un peu comme si c'était des choses que que j'aurais eu envie de dire ou que j'aurais aimé dire de cette manière-là. Et après, les porter, j'ai fait appel à ce que je suis, à mes sentiments. C'est ce qu'il écrit me parle et il n'y a pas de... J'ai pas l'impression de faire un grand travail, c'est assez naturel. Mais j'ai quand même beaucoup travaillé. Je dirais pas que j'ai pas travaillé, parce que c'est pas vrai, parce que ces textes sont quand même assez littéraires. Donc cependant, ils me sont de suite apparus comme... je les ai de suite compris, ressentis. Donc ça a été assez simple. Mais c'est du travail quand même.
Au départ, il y a eu donc ces quelques textes qui sont tombés entre les mains du compositeur. Et par la suite, pour l'album, qu'est-ce qui a été fait en premier, le texte ou la musique?
Ça a toujours été, quasiment tout le temps été le texte. C'est-à-dire qu'on avait effectivement trois morceaux au départ, qui étaient Le crâne corbeau, Trop d'amour tu. Non, Le crâne corbeau, Sous les nénuphars et Rien ne dure, qui étaient les trois premières chansons qu'on avait déjà faites avant toute chose. Et ensuite, tous les autres textes ont été des textes qui ont été faits au fur et à mesure avec Mallory, avec Christophe Houssin, le compositeur, et qu'on a écrit les uns après les autres dans l'idée de cette trajectoire de cette femme. Donc, ils ont été à chaque fois été pensés, écrits en connivence avec Mallory, avec Christophe Houssin. Pour qu'on soit d'accord, d'abord si musicalement on voulait faire les choses de telle ou telle manière, si on voulait du lyrisme, j'écrivais un texte qui prêtait à ce lyrisme, si on voulait que ce soit très intime, j'écrivais un texte et on écrivait des musiques qui apportaient cette intimité-là. Donc ça a toujours été fait comme des petites pierres de petits poussets, les uns après les autres en fait, en concertation avec chacun. Il y avait des textes que Mallory ne trouvait pas adéquats à ce qu'elle voulait faire sur tel ou tel morceau, donc on les changeait. Mais en tout cas, c'est toujours été l'impulsion de l'histoire et des textes et des émotions. Et ensuite, les musiques travaillées dessus et ensuite l'interprétation qui était faite par-dessus. Ça a été quasiment sur tous les textes, je crois, à part L'Orage, qui est le seul morceau dont la musique avait été faite par Christophe Houssin, et ensuite le texte sur une idée précise de Christophe et de Mallory qui a été écrit par-dessus, en fait.
Au niveau du choix du chant, entre ce chant parlé ou du chant plus classique, comment ça se fait? C'est le compositeur qui décide ou est-ce que tu as une part de liberté au moment où tu te lances en fait dans l'interprétation?
Alors, ça c'est une bonne question. C'est un mélange en fait. Il y a un mélange avec le savoir-faire technique. C'est-à-dire que par rapport aux mélodies proposées par Christophe et par rapport à ses compositions, de toute façon, il y a certaines choses que je ne peux pas faire autrement, que je ne peux pas chanter autrement, techniquement parlant. Après, on peut tout faire différemment, mais il y a mes choix au tout départ. C'est-à-dire que j'ai travaillé toutes les chansons dans mon coin. Une fois qu'elles étaient en fait composées et les mélodies proposées par Christophe, je me les suis appropriées avec ma voix, avec ma tessiture telle qu'elle est, telle que la musique était écrite. Alors il y avait parfois plusieurs solutions, et c'est des solutions auxquelles on a réfléchi ensemble, parce que j'hésitais peut-être, j'ai assez peu hésité dans l'ensemble, mais il y a quelques petits détails qu'on a décidé ensemble, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, de passer tel passage en voix de tête ou en voix de poitrine, selon ce que ça donnait, j'ai proposé les deux, et Christophe et Franck m'ont dit, non, là c'est carrément mieux en voix de poitrine, ou non, là c'est carrément mieux en voix de tête. Par rapport à après, il y a... Interpréter, c'est faire avec ce qu'on ressent. Puis il y a aussi, techniquement, on peut pas... quand une musique est écrite, il n'y a pas 36 000 manières non plus de chanter dessus. Et je pense que j'ai essayé, dans la mesure du possible, de pas chanter trop technique, quoi. Enfin, de pas trop penser à ça. Essayer de laisser une grande place à l'interprétation, quelque chose de naturel. Que j'aurais plaisir à refaire en concert, quelque chose de pas du tout surfait, quoi, qui pour moi était naturel. Voilà.
Justement, par rapport à la différence entre le live et l'album, au niveau du son, on retrouve les mêmes sensations, ou est-ce que l'enregistrement justement a été pas plus clinique mais plus posé?
Alors moi je pense, sans paraître prétentieuse, que le concert tel qu'on l'a réalisé à la Boule Noire représente assez bien la qualité de, que ce soit au niveau de la voix ou que ce soit au niveau musical de l'album. Je pense qu'il n'y a pas de grand écart. Les gens peuvent pas se dire ça n'a rien à voir avec l'album ou que les choses sont moins bien faites. Je pense qu'elles sont. Il y a des petites libertés, c'est-à-dire il y a quelques débuts de morceaux, quelques fins de morceaux qui peuvent être différentes parce que ça s'y prête par rapport au déroulé des chansons qui lui par contre diffère de l'album. Mais je pense qu'on essaye quand même de restituer la qualité au niveau du son et au niveau de l'instrumentation de l'album. Voilà. Après, c'est le public qui va juger ça.
Ouais. Il y a aussi une chose, c'est qu'on, de toute façon, pour la scène, on fait vachement prévaloir musicalement les choses par rapport au sens et au texte. Sinon, on pourrait se borner simplement à faire l'album tel qu'il est, dans son ordre de chansons, etc. Puisqu'il se tient, puisqu'il y a une histoire, etc. en filigrane. Maintenant, sur scène, c'est quand même autre chose. On n'est pas là pour théâtraliser à fond et faire comme si c'était une comédie musicale, parce que c'est pas du tout le cas. Donc, la musique a priori sur tout. Ça veut dire qu'on change quand même pas mal de choses sur scène. Beaucoup d'introductions, comme vient de le dire Mallory, qui sont complètement changé, beaucoup d'orchestrations qui sont changées. Sur Madame Casanova, il y a beaucoup plus de percussions, des choses très marquées qui ne sont pas du tout sur l'album. Sur Fugue au clocher, il y a une fin beaucoup plus lyrique que sur l'album. Il y a quelques titres sur le passage de saison, c'est très différent de l'album également. C'est plus orchestral, plus marqué, plus rythmique, etc. Par contre, on a gardé sur scène l'idée de quelques passages parlés qui est sur l'album, qu'on voulait garder, qui se sont imposés un peu tout seul, parce que c'est pas une chose qu'on avait pensé d'ailleurs forcément faire au départ, qui s'est naturellement imposé quand on a écrit l'album, les chansons. Il s'est avéré qu'il y avait quelques chansons comme Sept lieux qui passaient beaucoup mieux parler comme un conte. La fin du passage de saison qui est beaucoup plus dramatiquement parlant, intéressante si elle est parlée que chantée. Et ça, c'est des choses qu'on garde par contre en concert, parce que ça fonctionne très très bien au niveau du rapport et de l'impact que ça peut avoir sur les gens justement.
Justement, au niveau du choix des chansons, l'ordre n'est pas si important que ça en fait par rapport au titre de l'album.
Oui et non. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont complètement dissociables. Il y a des chansons qu'on ne peut pas faire en début de concert, il y a des chansons qu'on ne peut pas faire en fin de concert. Il y a en tout cas des groupes de chansons qui sont fatalement connectés et à mettre ensemble. Disons que autant l'album suit une sorte de suite logique liée au texte, liée au sentiment, liée à l'évolution du personnage que chante Mallory, autant sur scène, on fait valoir plutôt trois parties qui seraient une première partie qui rentre dans le vif du sujet avec des chansons comme Sous les nénuphars, Trop d'amour tue, Le crâne corbeau, une partie puis assez mélancolique, assez dure, assez désespérée, qui fait suite ensuite à une partie plus féerique, plus rêvée, avec des textes comme Sept lieux, Madame Casanova, Fugue au clocher, et une sorte de retour sur la fin du concert avec des titres comme Sur ma lune, comme Rien ne dure, Le passage de saison, qui sont des morceaux plus sereins, plus affirmés, et qui font un peu le lien entre la partie magique du spectacle et la partie plus forte et plus rythmique qui est le début du concert, par exemple. Donc on obéit plus à une loi d'ambiance sur scène qu'à une loi complètement de compréhension intellectuelle des choses, en fait.
Sur le tournage du clip, ça s'est passé où et dans quelles conditions? Qu'est-ce que vous en avez retiré, en fait, de ce clip?
Ah oui, mais alors il y a des choses qu'on dira et d'autres pas. Alors en fait, ça s'est passé à la forêt de Fontainebleau, ça on peut le dire, dans la forêt de Fontainebleau, dans les gorges de Franchard, pour ceux qui veulent faire un pèlerinage. Voilà, enfin, et dans la mer de sable aussi. La mer de sable, un site assez connu là-bas. Les conditions de tournage compliquées, rapides, comment pourrait-on dire, passionnées, puisqu'on a passé 48 heures folles, seulement 48 heures. À monter, démonter la grue, remonter, s'enliser dans la mer de sable, revenir dans les gorges de Franchard, sur les rochers. Enfin, c'était éprouvant, difficile, mais on a fait tout ça avec foi et assez peu d'argent, disons-le.
Disons que ça a été, je dirais presque, les conditions de tournage autant catastrophiques qu'extraordinaires. Parce qu'on a eu vraiment on a perdu énormément d'images, on a dû retourner pour des questions techniques. Il avait fait très chaud ce jour-là, des cellules électroniques de la grue ont flanché. Les trois quarts du matériel qu'on avait ramené n'ont pas pu fonctionner parce que le groupe électrogène ne fonctionnait plus, etc., etc. Donc on a dû se débrouiller sur place avec la moitié du matériel qu'on avait pris qui ne fonctionnait plus, en fait. Et pour finir, on a trouvé toujours des subterfuges, des moyens de... On avait deux enfants sur le tournage, ce qui est toujours très compliqué, parce qu'on a dû les faire patienter très longtemps sur le lieu où on tournait, sous une grosse chaleur. Mais bon, pour finir, on était contents, puisque ça s'est fait dans une situation très, très extrême, d'une certaine manière. Mais on a quand même eu ce qu'on voulait, donc on était contents.
Le premier album vient de sortir. Est-ce que vous avez déjà commencé à composer pour l'éventuel prochain ?
On n'a pas commencé du tout, par contre on sait secrètement qu'on y pense. Donc on n'en parle pas encore avec Mallory, avec Christophe, mais je sais que chacun dans son coin on y pense. Ça fait déjà presque 2 ans qu'on est sur cet album, qui est sorti depuis 3 semaines, mais qui est fini en réalité depuis presque 1 an. C'est vrai qu'on commence déjà à penser à la suite, mais on n'y est pas encore.
Alors moi j'ai eu un scoop, c'est qu'en fait Christophe à la fin du concert m'a susurré à l'oreille que de toute façon il avait déjà le deuxième album dans la tête. Voilà.
Une très bonne nouvelle ça. Très très bonne nouvelle. Je vais terminer avec mes questions classiques de maintenant dans l'émission. Savoir quel est votre auteur de roman préféré.
Je n'en ai pas. Je n'en ai pas.
Oui,
mais ça c'est du théâtre en général. Moi c'est pas ces nouvelles. Oui, il y a des nouvelles, mais moi j'ai plus une culture théâtre. Moi, j'ai là dans les romans, j'ai plutôt des auteurs en fait qui me viennent comme Bergman ou des gens qui ont écrit aussi des romans, des essais. Mais alors je suis très du Nord apparemment, donc Strindberg, Bergman, Ibsen, tous ces gens-là qui font partie de ma culture théâtrale. Tennessee Williams, oui aussi. Et là comme ça, après chez les Français, j'ai pas eu vraiment de flash littéraire. Là il faudrait que je réfléchisse, je peux pas répondre dans l'immédiat de manière très touffue.
Ah moi j'en ai plein que j'adore. moi j'aime beaucoup Gombrowicz, par exemple, un auteur polonais contemporain, enfin qui est mort maintenant depuis des années 60, je crois, mais qui est un auteur surréaliste, très burlesque, très drôle, très profond, extra. J'adore Janet Frame, qu'on connaît en France pour Un ange à ma table, le film de Jane Campion, qui était sorti il y a une quinzaine d'années maintenant, vingtaine d'années peut-être, qui est une auteure néo-zélandaise, qui a beaucoup écrit sur la folie, sur la Nouvelle-Zélande, qui est une auteure absolument incroyable. Encore assez peu méconnu en France. Et puis récemment, j'ai découvert Jasper Ford, qui est un auteur anglais assez génial, qui écrit un peu pour moi le nouvel Alice au Pays des Merveilles. Ce sont les quatre livres dont le dernier vient de sortir la semaine dernière, que je lis en ce moment, je suis tout à fait content. C'est la série des Sœurs d'Annex, qui est une sorte de série policière fantastique qui se passe en 88, mais qui est une sorte de roman d'anticipation, qui est vraiment génial.
Votre film préféré ?
Je peux pas. Le film préféré, non, des réalisateurs qui me font rêver, quoi. Des gens comme Almodovar, mais tous ces films, j'ai pas deux films préférés, en fait, c'est compliqué. Par exemple, Franck m'avait fait découvrir le film avec Tess, voilà, ça j'avais jamais vu ce film de ma vie, j'ai complètement flashé. Et celui avec Jessica Lange, je ne sais plus le titre, 36, voilà. Donc non, il y a plein de gens que j'aime bien. Lars von Trier, quand j'ai découvert par exemple Fille comme Festen, voilà, j'avais des frissons et j'aime beaucoup sa manière de filmer, d'utiliser les acteurs. Voilà, j'aime tantôt des trucs très abrupts en fait, très froids, très presque sales. Enfin, une image qui ne fait pas du tout rêver et en même temps des choses très travaillées, extrêmement folles, très colorées comme ce que peut faire un Almodovar où tout est fabriqué, tout est pensé dans la manière de nous présenter la vie, enfin les images, voilà. Donc des choses assez diverses.
Et moi, je suis très cinéphile, il y a plein de films que j'aime, c'est un peu compliqué. J'aime beaucoup... Si je citerais un film que j'aimerais que tout le monde voit, ce serait Possession d'Andrzej Żuławski, qui maintenant malheureusement est mis au banc du cinéma français depuis presque 10 ans maintenant, qui a fait pour moi les films qui ont le plus compté dans ma vie, je crois. Possession, La Note Bleue, L'Amour Braque, beaucoup Mes Nuits sont plus belles que vos jours, qui est un film extra. David Lynch, dont j'aime quasiment tous les films. Polanski aussi, pour beaucoup de ses films d'il y a 10, 15 ans, 20 ans maintenant, moins ses derniers films. Beaucoup, beaucoup de gens, en fait. Jane Campion, plein de gens.
Et votre CD préféré ?
Pareil. À ces questions-là, je suis absolument nulle parce que je n'ai pas mon livre de chevet, mon CD de chevet. Non, des gens que j'ai écoutés, réécoutés. Brel, là j'ai envie de dire Brel, voilà, je pense qu'à lui, parce que toute petite, c'est quelqu'un qui m'a traversée, transpercée, voilà. Et sa manière de... Les mots, quoi, en fait. Hein, c'est aussi passé par les mots et la manière dont il les interprétait. Des gens comme ça. Après, j'écoute tellement de choses différentes. Ça peut passer du flamenco, en passant par Sting, par beaucoup de musique latine, ou alors la chanson française, comme Brel, comme... je suis très fan de Sanson aussi, que j'écoute un peu moins, mais les vieux albums, j'ai beaucoup écouté. Il y a eu beaucoup de gens, mais je suis fidèle. Voilà, il y a des gens qui m'ont fait rêver très tôt. Brel, j'ai envie de parler de Brel.
Et moi, j'en ai vraiment un. C'est Hands of Love de Kate Bush, qui est sorti en 85, je crois. J'étais adolescent quand j'ai écouté. C'est quasiment surpassable pour moi. Pour moi, il y a tout de ce qu'on peut attendre d'une création par une femme en plus. À une époque, elle était comme très écrasée par les interprètes masculins, Sting, Gabriel, etc. Putain, Gabriel. Et pour moi, on n'a jamais trouvé cette effervescence d'inspiration féminine pour une chanteuse que sur cet album, où elle a tout fait et où tout est absolument génial, je trouve. Et je pense que d'ailleurs, c'est un album qui a marqué toute la génération de chanteuses qui ont suivi, et c'est bizarrement que maintenant d'ailleurs qu'on entend parler, alors que pendant 20 ans c'est pas une chose qui était très dite dans les médias ou dans la presse par exemple, et on se rend compte finalement que PJ Harvey, que Björk, que Tori Amos, toutes ces chanteuses qui sont les pierres angulaires de la chanson et du rock féminin à l'heure actuelle sont très filles de Kate Bush, et moi j'adore.
Quelque chose à ajouter ?
Rien, tout va bien. Tout est super dans le meilleur des mondes. Non, non, ça va très très bien. On attend la suite, on attend de concerts, on attend que la presse en parle, que les médias s'emparent du projet et on a vraiment hâte de savoir ce que ça va donner, quoi.
Oui, vivement les prochains concerts, vivement le prochain album, même si celui-là doit faire déjà son petit bout de chemin, il doit continuer à vivre, à exister sur scène. Voilà, ça c'est vraiment la grande envie du moment, continuer la scène, voilà, et puis perdurer, je ne sais pas quoi dire, excusez-moi.
Pour vous retrouver sur internet,
on peut retrouver le site qui est très beau avec toutes les photos de Franck Glennison avec qui on travaille sur toute l'imagerie de l'album. C'est lafilledoctobre.net sur la page MySpace, myspace.com, la fille d'octobre, où vous trouvez toutes les infos, des concerts, des petites rubriques qu'on écrit de temps en temps sur l'album, le site officiel. Et voilà, toutes les infos que vous aurez sur nos actualités prochaines.
Merci beaucoup.
Merci.